Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude. Qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, et puis, voulez-vous partir vous aussi? Ce dimanche nous met devant l'apparent échec de Dieu. Josué qui interpelle le peuple d'Israël parce que sans doute déjà il observe un intérêt, un attrait de ce peuple pour les dieux qui l'entourent. Il nous est précisé dans la première lecture, les dieux au-delà de l'Euphrate, les dieux des Amorites. S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et dans l'Évangile, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Beaucoup de disciples s'en retournèrent, cessèrent de l'accompagner. Pour comprendre tout à fait cette parole, il nous faut nous référer aux versets qui précèdent notre évangile, ces versets dans lesquels Jésus a dit, je reprends le texte, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Il y a de nombreuses intentions à cette messe. Sans doute que les uns les autres, vous êtes là pour prier pour le défunt que vous accompagnez. Et cette parole, de fait, peut vous interpeller. Manger la chair du Christ, boire le sang du Christ. Comment ne pas être surpris, étonné et même réservé devant une telle parole? Nous pourrions être nous aussi de ceux qui se pose des questions, cette parole est rude, qui peut l'entendre ? Et tourner le dos au Christ. Voilà le début de notre réflexion de ce jour. Si vous voulez, vous pouvez choisir quelqu'un d'autre. C'est du moins la liberté que nous offre notre Dieu. Nous avons un Dieu étrange qui ne vient pas satisfaire nos besoins. Il ne suffit pas d'un cierge pour obtenir ce que nous désirons. Nous le savons, même si les croyants ne cessent de mettre des cierges, sans doute parce qu'ils ont obtenu ce qu'ils désiraient pour une part. Sans doute aussi parce qu'ils demeurent dans la foi. Cette parole de Dieu nous invite à entrer dans deux perspectives. La première, c'est celle du salut, avec le livre de Josué. S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. À quelques siècles de distance, nous ne sommes plus entourés de Dieu, mais nous avons de nombreuses sollicitations pour essayer de mobiliser notre centre d'intérêt. Il suffit de regarder les médias, en particulier les publicités. Elles créent des désirs dont nous n'avions même pas idée. Nos centres d'intérêt, où sont-ils ? Est-ce que c'est une réussite professionnelle ? Est-ce que c'est le plaisir ? Est-ce que ce sont les loisirs ? Est-ce que ce sont les relations humaines, nos amitiés, nos affections, nos centres d'intérêt? Ils occupent toute notre vie, ils occupent le cœur de notre vie. Et peut-être qu'ils prennent pour une part la place de Dieu. Nous n'oublions pas que notre Dieu nous a donné la vie et que c'est lui qui, dans le passage de la mort, nous accueillera parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Nous pouvons l'oublier toute notre vie. Nous ne l'empêcherons pas de nous aimer. Nous ne l'empêcherons pas de vouloir nous libérer du mal et de tous nos esclavages. Et pour cela, il est bon d'entendre la réponse d'Israël. Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. Et ceux qui parlent vont dire ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. C'est lui qui nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru, chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Il nous a libérés, il nous a protégés. Est-ce que dans l'expérience de salut que nous connaissons, nous pouvons accrocher ces deux mots à l'action du Christ, à l'œuvre du Christ dans nos vies? De quoi Dieu nous a-t-il libérés ? D'une addiction, nous savons que pour cela, il faut sans doute également un accompagnement psychologique, il faut sans doute peut-être même un traitement médical. Mais quelle est la part de Dieu dans notre vie spirituelle pour nous libérer de nos addictions, de nos esclavages ? Et sous ce terme-là, nous pouvons mettre les péchés qui forment de mauvaises habitudes. De quoi Dieu nous a-t-il libérés ? De quoi est-il en train de nous libérer ? Et puis nous retenons le deuxième terme, protection. Il nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru. Là, je pense que nous serions nombreux à dire que nous avons évité dans toute notre vie de nombreux dangers. Est-ce que dans notre foi, nous allons jusqu'à dire que Dieu y est pour quelque chose ? Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur. Nous sommes un peuple, le peuple de Dieu qui fait l'expérience aujourd'hui du salut que Dieu veut nous accorder. Notre Dieu n'est pas celui, encore une fois, qui répond à nos petits besoins. Il est celui qui veut nous élever. Il est celui qui nous fait confiance, qui nous donne ce monde pour le gérer, pour l'embellir, pour le développer, en ayant soin de cet environnement et en ayant soin des générations à venir. Notre Dieu fait de nous des responsables. Il a pleinement confiance en l'homme. Mais pour cela, il faut que l'homme ait fait cette expérience de salut. Il a goûté sa faiblesse, il a goûté ses limites. Mais avec Dieu, il peut aller plus loin parce que Dieu le libère au jour le jour. Expérience de salut et expérience de communion. Dites-moi, vous qui vous aimez, quel est le moment où vous entrez dans une communion la plus forte, la plus vive? Bien sûr, dans une discussion, quand vous sentez que les idées sont partagées, que vous êtes compris, que vous êtes entendu, que même vous êtes estimé pour ce que vous venez de dire, qu'il y a là une reconnaissance de l'autre. C'est une communion d'esprit. Et en amour, c'est une communion de cœur. Et allons même jusqu'à la communion des corps. On dit que c'est le sommet de l'union des couples. Moment sacré, moment fondamental, où les deux chairs ne font plus qu'une dans le sacrement du mariage. Eh bien, à partir de là, nous comprenons pourquoi le Christ a voulu se donner à nous. Et pourquoi il a trouvé ce moyen du pain de vie, du vin versé, pour s'unir à nous. Dites-moi, qu'est-ce qui est plus compliqué, de créer ce monde à partir de rien ou d'entrer dans le pain et le vin, de changer l'essence du pain et du vin pour que sous cette forme, nous recevions le Christ qui se donne à nous. Si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. La communion eucharistique, c'est le moyen qu'a trouvé Dieu pour s'unir à chacun de nous, pour être présent à chacun de nous, pour nous donner son amour, sa force, sa paix, son espérance. Vous savez que j'aime bien un auteur suisse, Maurice Zindel. Maurice Zindel ose dire, « Si les chrétiens comprenaient ce qu'est l'Eucharistie, nos églises seraient trop petites et chaque dimanche, il y aurait des files aux portes de l'église pour y entrer. » Est-ce que nous percevons ce que nous recevons quand nous venons communier le corps du Christ, sa présence, le Christ tout entier ? Entre nos mains, sous ce pauvre signe du pain. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas dire quand celui qui nous donne la communion, disant le corps du Christ, voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous taire ou simplement dire merci. C'est plus que cela. L'Église nous suggère de dire Amen, ce qui veut dire oui, je crois. C'est le corps du Christ que je reçois, c'est le Christ tout entier. Et nous entrons dans la foi de Pierre alors. Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons, nous savons que tu es le Saint de Dieu. Notre Dieu n'est pas dans les nuages, là-haut. Il veut se faire au plus proche. Et c'est pour ça qu'il se donne à manger, pour être au plus intime de notre être. Saint Augustin dira, plus intime à moi-même que moi-même, pour habiter, demeurer en nous, faire de nous un temple, pour que cette communion nous transfigure à partir de l'intérieur et que nous révélions à nos frères et sœurs, dans la discrétion, dans l'humilité, l'amour de Dieu qui dépasse toute chose. L'amour de Dieu qui nous fait dépasser la mort. L'amour de Dieu qui nous fait aimer. Saint François d'Assise osera même aimer le lépreux qui le dégoûtait précédemment. Oui, cette communion peut nous entraîner loin, non seulement dans l'union avec Dieu, mais dans le service de nos frères et sœurs. Alors, ce matin, demandons au Seigneur de nous faire goûter l'expérience de salut qu'il veut nous offrir, de nous faire entrer dans cette communion de vie et d'amour avec lui et avec nos frères et sœurs. Amen.